BFM Business avec la Tribune et Air et Cosmos présentent Air et Défense, Jean-Baptiste Huette.
Mathieu Louveau, bonjour.
Jean-Baptiste Huette, bonjour.
Vous êtes le directeur général d'Airbus Hélicoptère. Merci beaucoup d'être avec nous. À mes côtés, comme chaque semaine, Michel Cabirol, qui est rédacteur en chef du pôle aérospatial, défense et transport à la Tribune. Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Baptiste.
J'en profite juste, avant de commencer cette interview, pour vous montrer la une de nos amis et confrères Air et Cosmos, qui sont souvent là, vous savez, dans cette émission Air et Défense cette semaine. Va-t-on vers la fin de la crise avec Pratt & Whitney, cette fameuse crise des moteurs, c'est-à-dire dans Air & Cosmos, Pratt & Whitney promet la fin de la crise en 2028. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un problème similaire ou pas du tout d'ailleurs chez Airbus Hélicoptère? On va en parler dans un instant avec vous, Mathieu Louveau. Je vous remercie encore d'être là parce que c'est votre première grosse interview télévision et radio depuis votre nomination au mois d'avril dernier, si je dis pas de bêtises. Vous arrivez à un moment qui est absolument stratégique chez Airbus Hélicoptère, hausse sensible des commandes militaires, au sensible aussi quand même bien sûr de la demande civile. Vous avez la dronisation en toile de fond, on va largement en parler. Votre prédécesseur Bruno Even a clairement fait le job, il vous laisse une entreprise qui est en très bonne santé. Quelle est aujourd'hui et dans les années qui viennent votre feuille de route?
Ma feuille de route, comme vous l'avez rappelé, est de livrer d'abord et avant tout les très belles commandes qui ont été acquises au cours des dernières années et sous le mandat de Bruno, qui a effectivement laissé l'entreprise dans une situation exceptionnelle. Donc énormément de commandes l'an dernier, les plus grandes commandes militaires qu'on ait eues. On a eu pour la première fois la plus grande part de marché sur le marché militaire, 28% de ce marché, où on est plus concurrencé encore que sur le marché civil. Donc il va falloir livrer ces commandes. Et livrer ces commandes, ça veut dire assumer une montée en cadence qui est importante en charge industrielle, qu'on peut mesurer en équivalent d'écureuil livré. On est de l'ordre de 7 à 8% par an sur les années qui vont venir, avec sur certains programmes des hausses très fortes. Sur le 145, on livrait un peu plus de 90 hélicos l'an dernier, on doit en livrer plus de 120 cette année. Et globalement, on doit amener l'entreprise de 346 hélicos livrés en 2024 à plus de 500 en 2030, en passant par un peu plus de 400 cette année. Donc une très forte charge industrielle et qui est tiré par ces grandes commandes. L'an dernier, 100 hélicos commandés par l'Espagne.
Mais qui a contrat espagnol.
Plusieurs fois, 82 hélicoptères H145M commandés par l'Allemagne. Et on voit que c'est des commandes militaires qui s'inscrivent en partie dans le nouveau contexte stratégique européen. Donc la première feuille de route, c'est celle-là. Et c'est pas seulement livrer les hélicoptères, c'est aussi livrer les développements. On a des développements très importants. Le nouvel hélicoptère interarmé français, l'hélicoptère interarmé léger, le Guépard, qui est basé sur le H-160 civil. Et là, on a des développements importants, puisqu'on doit développer une version pour l'armée de terre, une version pour la marine, une version pour l'armée de l'air. Donc on a fait voler le premier prototype l'an dernier. On est en ce moment dans les premières campagnes d'essai des armements. Et il va falloir livrer le premier exemplaire en 2028. Et donc, très important développement, beaucoup de systèmes sophistiqués à développer sur cet appareil. Et il en va de même sur la grande rénovation du Tigre, le Tigre Standard 3, et sur le H145M. Donc aussi une très grande masse de développement qui occupe énormément notre bureau d'études.
Juste un mot sur votre organisation industrielle. Mmh. On a tous en tête, parce qu'on en parle beaucoup ici souvent, de l'organisation industrielle d'Airbus, qui est éclatée entre la Chine, entre les États-Unis, etc., etc. Bien sûr, en France, l'Allemagne. Vous, votre organisation industrielle,
c'est une organisation industrielle intégrée en Europe. Et finalement, sur la même philosophie que la division Airbus commerciale. Aux hélicoptères, nous faisons sur le site de Marignane, en France, les ensembles mécaniques, c'est-à-dire essentiellement les boîtes de transmission, qui sont une pièce critique de l'hélicoptère, qui assure la transmission du moteur vers le rotor, mais qui aussi soutient l'hélicoptère en vol. Sur un site près de Paris, à Dugny, nous faisons les voilures, donc les pales. Et sur notre site allemand à Donauwörth, en Bavière, nous faisons le fuselage central principal de l'appareil. Et en Espagne, à Albacete, dans la Manche, la partie arrière, donc la queue des hélicoptères, la poutre de queue. Et donc, c'est une organisation intégrée, ce qui fait que tous les hélicoptères aujourd'hui chez Airbus Hélicoptères sont des hélicoptères européens qui fonctionnent selon cette chaîne de production intégrée. Et l'assemblage final se fait, selon les familles d'hélicoptères, soit en Allemagne, soit en France.
Est-ce que justement pour faire face à cet afflux de commandes, de nouvelles commandes, et notamment en 2025 où je pense que vous avez eu 540, un peu moins de 540 commandes d'hélicoptères, comment vous transformez votre outil industriel? Est-ce que vous avez besoin d'investir dans votre outil industriel et comment vous le faites aussi bien à Marignane aussi qu'en Allemagne avec à Donauwörth et peut-être autre part?
Alors, il faut absolument investir dans l'outil industriel pour accroître notre capacité et aussi pour renforcer notre qualité et optimiser nos coûts de production. L'investissement majeur que nous faisons, c'est la rénovation du site de Marignane. Plus de deux tiers des surfaces vont être renouvelées. Et nous allons en particulier moderniser l'outil de production de ces ensembles mécaniques dont je parlais tout à l'heure, qui sont une production très automatisée, avec beaucoup de machines très sophistiquées, qui doivent avoir des précisions extrêmes. Et on a besoin d'améliorer la disponibilité de ce parc, son efficacité industrielle et énergétique, et de renouveler des machines qui parfois ont leur âge, ainsi que tous les bâtiments dans lesquels elles opèrent. Donc c'est un plan d'investissement de plus de 600 millions d'euros, qu'on appelle Next Gen Factory, la première tranche a démarré, a reçu le soutien des pouvoirs publics, et on a déjà optimisé l'étape finale, qui est l'assemblage, qui est aujourd'hui totalement modernisé, automatisé. Et maintenant, c'est la production de chacune des pièces élémentaires qui va l'être. On investit aussi, bien sûr, en Allemagne, de la même manière dans l'expansion de nos capacités. Par exemple, on a posé la première pierre récemment d'une plateforme logistique qui va suivre la croissance de la production, aussi bien pour l'approvisionnement des chaînes que pour les clients. Et notre usine de Paris n'a jamais été aussi pleine, puisque maintenant elle concentre toute la production et le soutien des voilures. La fin des transferts ont été opérés cette année, et donc elle tourne à plein régime. Et là aussi, ça représentait un investissement qui date d'un peu plus de 10 ans maintenant, mais qui paye aujourd'hui en termes de capacité de production.
Alors vous avez fait une très très belle année commerciale en 2025. Est-ce que vous allez rééditer cette année au même niveau, à peu près 540 commandes d'hélicoptères? Et c'est quoi aujourd'hui les tendances, les marqueurs forts du marché de l'hélicoptère?
Alors, l'année dernière était effectivement sans doute exceptionnelle, en particulier la commande espagnole. Donc, on ne fera peut-être pas autant exactement que l'an dernier. On avait approché les 14 milliards de commandes l'an dernier par rapport à un chiffre d'affaires de 9 milliards d'euros. Donc, on avait des commandes qui allaient bien au-delà de notre chiffre d'affaires. On vise sans doute à rester à un niveau au-dessus de 10, de garder une très bonne dynamique commerciale. Et on pourra avoir d'autres années, sans doute, avec quelques très grandes commandes militaires dans les années qui viennent. Pas facile de parler de toutes les commandes en cours, de toutes les campagnes commerciales en cours, mais il y a beaucoup d'appétit pour notre gamme militaire, pour le 145M, clairement, en Amérique latine, en Europe de l'Est, pour le Caracal, qui s'est extraordinairement bien vendu les années dernières, aussi bien au Maroc qu'aux Pays-Bas, qu'en Irak. Donc la situation du marché, clairement, en Europe... la dynamique d'autonomisation de l'Europe et de restauration de la capacité de l'Europe à se défendre par elle-même porte les acquisitions d'hélicoptères. On y reviendra peut-être, les hélicoptères ont démontré leur totale pertinence dans les conflits en cours, et ça a été à l'origine clairement des commandes espagnoles et allemandes, et il y a beaucoup d'intérêt en Europe pour notre gamme militaire. Pas seulement en Europe, au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique latine. Sur le marché civil, c'est un marché qui est plus stable, qui croît moins vite, mais qui croît néanmoins régulièrement, parce que les besoins des gouvernements en termes de médical, d'air ambulance, en termes de lutte anti-feu, on y reviendra peut-être, en termes de police, continuent à croître à mesure que les gouvernements développent leurs activités et puis gagnent en moyens. Donc la tendance du marché est plutôt bonne. Maintenant, l'hélicoptère est cyclique, certains segments sont très cycliques. Le marché, en particulier pétrolier, qui a beaucoup baissé pendant une dizaine d'années suite à la baisse des prix du pétrole. Il y a une certaine reprise de ce marché qui n'est pas spectaculaire, qui n'est pas au niveau qu'on a connu il y a 10 ans, mais qui porte aussi positivement nos commandes.
Vous avez des clients qui sont très exigeants, qui sont devenus très exigeants sur les délais de livraison. C'est aujourd'hui un critère absolument fondamental pour eux. En termes d'industrialisation, je parlais tout à l'heure des moteurs Pratt & Whitney et la crise des moteurs dans l'aéronautique civile. Est-ce que vous avez identifié, vous, quelques points de tension sur vos chaînes?
Alors, la situation va globalement mieux. On a eu, après le Covid, c'est vrai, une phase très difficile, comme toute l'industrie aéronautique, puisqu'on combinait à la fois une perte de capacité industrielle, surtout chez les fournisseurs issus de la crise du Covid, et souvent les fournisseurs sont les mêmes pour les avions et pour les hélicoptères, et une reprise très forte des commandes. Donc on était sous très forte tension. ça va plutôt mieux. Je ne dirais pas que c'est totalement résolu. Il y a encore quelques entreprises qui ont des difficultés à nous livrer, mais moins qu'avant. En ce qui concerne spécifiquement les moteurs, effectivement, nos motoristes ont eu eux-mêmes les détentions. C'est, nos motoristes, c'est Safran et Pratt & Whitney, ont connu eux-mêmes des tensions. Je dirais que globalement, elles restent à un niveau aujourd'hui maîtrisé, mais clairement, ils ont eux-mêmes, avec leur propre fournisseur, une tension à résoudre. Ensuite, en termes d'industrialisation, l'entreprise avait fait des investissements, par exemple, sur le système de production du H160. Le H160, il est passé d'aucune unité livrée il y a 3-4 ans, puisqu'il est entré en service à ce moment-là, à une quarantaine aujourd'hui. Et ça a été une montée en puissance très rapide et qui n'a été possible que grâce à un système industriel beaucoup plus automatisé, qui avait été un fort investissement de l'entreprise dans ce programme et qui paye aujourd'hui.
Alors, on va peut-être parler du Tigre, qui est un formidable hélicoptère d'attaque. Le Tigre, évidemment, la modernisation, les Allemands n'ont pas souhaité participer au programme de modernisation. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un flou artistique en France. Comment vous voyez la chose, enfin, le devenir du Tigre ?
Je pense pas qu'il y ait de flou. On exécute le programme. On est déjà bien avancé dans le développement. On vise le vol du premier prototype cette année. Le Tigre a démontré son efficacité contre les drones dans le conflit récent au Moyen-Orient, où il a abattu un grand nombre de Shahed, et il a démontré sa remarquable efficacité avec un canon extrêmement précis qui tire très loin. Et il a été équipé à cette occasion d'ailleurs de quelques capacités additionnelles d'une manière très réactive et très rapide. À mon sens, le Tigre reste totalement nécessaire sur les théâtres d'opération d'aujourd'hui. Beaucoup de pays sur la frontière orientale de l'Europe ont acheté des grandes quantités d'hélicoptères d'attaque, malheureusement pas des Tigres, mais ça démontre la pertinence et la nécessité de cette capacité, qui est très complémentaire de ce qu'on peut faire avec les drones. Donc, la modernisation du Tigre, ça crée un appareil exceptionnel, puisqu'on garde la plateforme elle-même, qui est extrêmement performante, très agile, très bien protégée contre les impacts de guerre. Et ça, on l'a vu, y compris en Afrique du Nord, lors des opérations Barkhane ou Serval. On garde cette plateforme et on y injecte la toute dernière génération de capteurs et d'armement. Donc, ça en fera, clairement, l'hélicoptère d'attaque de très loin, le plus moderne et le plus performant du monde. Et à notre sens, il n'y a pas de doute sur l'importance d'une telle capacité.
Alors, est-ce que vous sentez un frémissement de la part de clients export sur le Tigre ? Et si c'était le cas, est-ce que vous pourriez rouvrir une chaîne de production du Tigre ?
Ça n'est pas impossible. Ce n'est pas un problème technique, c'est un problème économique. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir une commande suffisamment importante pour amortir les frais de redémarrage d'une production. L'ensemble des systèmes, qui sont la partie la plus coûteuse et la plus sophistiquée, vont être renouvelés avec le Mark III. Donc là, la question ne se posera pas. Il restera essentiellement les panneaux de la plateforme, le fuselage, puisque aussi tous les ensembles tournants, les rotors, les pales, les boîtes, les moteurs continuent à être produits pour l'après-vente. Donc le problème est soluble. Ce sera une fonction de l'équation économique et de la taille d'une commande éventuelle.
Et votre téléphone sonne pour le Tigre ?
Pas encore, mais ça viendra.
Vous avez prononcé un des mots les plus importants, drone. Vous êtes confronté, finalement, en fond de sauce, si j'ose dire, à cette dronisation du monde de l'hélicoptère. Très concrètement, alors vous avez présenté le U-145 à Berlin, je crois, il y a quelques semaines, qui va être un hélicoptère autonome et qui doit faire un premier décollage à la fin de l'année. Comment vous conciliez, chez Airbus Hélicoptère, l'hélicoptère et le drone ? Est-ce que l'un va remplacer l'autre ? Est-ce qu'ils vont fonctionner ensemble ? Quelle est déjà la vision globale ?
Alors, le drone est très complémentaire de l'hélicoptère et lui est très partiellement substituable sur certaines missions précises. Et c'est pour ça qu'on a souhaité développer une activité de drone chez Airbus Hélicoptère. Maintenant, on a une gamme de drones importante. On les a renommés récemment U10, U30, U50, U70. Le U-145, qui sera donc la version dronisée du 145. Le drone pour des missions d'observation en particulier, pour des missions parfois de désignation, d'identification de cibles, c'est un outil qui peut effectivement compléter l'hélicoptère, partiellement le remplacer à des coûts inférieurs. Donc, il fallait qu'on soit présent sur cette capacité. capacité. Et c'est aussi surtout un outil très complémentaire de l'hélicoptère, puisque beaucoup de drones volent à des vitesses qui sont en fait assez comparables à celles de l'hélicoptère, et elles permettent à l'hélicoptère de rester un peu plus en retrait de la partie la plus exposée du champ de bataille et d'envoyer les drones sur la zone la plus exposée. Mais comme l'hélicoptère n'est pas trop loin, il peut les contrôler dans de bonnes conditions. Il peut être un relais de communication et il peut être le cerveau qui va contrôler l'ensemble des drones. Donc c'est des modes d'opération nouveaux qui nous semblent extrêmement pertinents, et c'est pour ça qu'au-delà des drones proprement dit, nous développons aussi une capacité de couplage des hélicoptères avec des drones qui s'appelle Edge Teaming, qu'on a développé en 6 mois l'an dernier, démontré pour la première fois entre notre drone Flex Rotor et le 225, le H225 à Singapour. Et donc c'est une capacité qui elle suscite, enfin qui suscite beaucoup d'intérêt, je reçois pas mal de coups de fil, et qui pourra s'implanter sur tous nos hélicos, c'est-à-dire non seulement le 225 mais aussi le HIL qui a nativement donc le Guépard qui a nativement la capacité à communiquer, le H145. Donc les drones sont clairement on l'a vu hein, sur les complis récents, clairement un nouvel acteur essentiel du champ de bataille. Et Airbus Hélicoptère se positionne sur les drones quand même d'une certaine taille, où nos compétences aéronautiques sont pertinentes, mais on est ouvert à se coupler avec tous les drones du marché pertinents que voudront nos clients grâce à une solution comme Edge Teaming. Et on a développé avec, on va travailler par exemple avec Quantum Systems, qui est une société de drones qui peut faire des drones de défense contre les drones. Et on a initié une discussion positive en Allemagne récemment.
Mais ça restera un couplage. Le sens de l'histoire n'est pas de dire que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, il y aura plus d'hélicoptères avec des hommes à l'intérieur, il y aura plus que des drones, ou il faudra...
Il y aura certainement des deux. On va aussi vers la dronisation de l'hélicoptère. Donc le U-145, c'est la version sans pilote du H-145. On enlève le cockpit, on obtient une cabine du coup considérable qui permet de transporter 4 conteneurs standardisés autant. Et pour effectuer des missions dangereuses, pour effectuer des missions exposées, on économise bien sûr la vie ou le risque potentiel sur la vie de l'équipage. On économise aussi beaucoup de formation. Et donc, il y a énormément d'intérêt pour cette capacité aux États-Unis, qui sont peut-être les plus avancés dans la réflexion, mais en Europe aussi.
Alors, vous avez parlé de quelque chose de très important, c'est le H-teaming. Est-ce que c'est déjà une première brique du combat collaboratif ou c'est un système déjà à l'état de l'art?
Ah, c'est la première brique du combat collaboratif. Le but, c'est de croître par incrément successif. Aujourd'hui, le H-teaming permet de coupler un hélicoptère avec un drone. Ensuite, on passera à plusieurs drones.
Jusqu'à combien de drones?
On pense que quand on va dépasser 4, 5 drones, la capacité de l'équipage à contrôler autant d'appareils en même temps va quand même dépasser les capacités cognitives d'un équipage en tandem, qui est l'un des défis de l'hélicoptère. C'est qu'on n'a pas un grand équipage qui contrôle tous les systèmes. Donc, à partir de là, on aura vraiment besoin de plus d'intelligence artificielle pour qu'une grande partie de cette charge cognitive soit assurée par l'IA. Donc, on démarre avec Edge Teaming aujourd'hui avec un drone. Progressivement, dans les années qui viennent, on va passer à 2, puis 3, puis des capacités d'IA qui vont nous permettre de gérer des essaims et donc des quantités beaucoup plus importantes de drones, sachant que les systèmes de communication de l'hélicoptère, eux, sont très dimensionnés. Par exemple, sur un HIL, il y a énormément d'antennes qui permettront de communiquer avec ces drones.
On a des appareils, notamment militaires, qui sont aujourd'hui blindés pour la guerre électronique, si j'ose dire, brouillage GPS, missiles, drones, etc. On a une quantité d'électricité à bord qui est peut-être plus importante que sur des précédents modèles. Est-ce que ça fait la différence en termes de consommation de carburant, ou il y a des réflexions autour de ça ou...
Alors, d'abord, la modernisation des nouvelles gammes d'hélicoptères vise justement à améliorer beaucoup la capacité de calcul à bord et l'apport énergétique nécessaire. On rattrape aussi plusieurs années de loi de Moore, donc on a aussi des ordinateurs qui sont de dernière génération, beaucoup plus performants. Et donc le but, c'est d'avoir de la modularité. Et pour avoir de la modularité, il faut avoir de la surcapacité en termes de traitement de l'information, qui permet de ne pas faire des développements logiciels trop complexes lorsqu'on ajoute des fonctionnalités. Donc c'est clairement l'orientation, par exemple, de la rénovation du NH90. On a capturé le contrat, on a reçu le contrat d'études pour le NH90 bloc 2, qui serait la modernisation du NH90 dans les années 30. Et l'un des grands objectifs, parmi d'autres, de cette modernisation, c'est de rendre l'architecture modulaire pour qu'on puisse charger très facilement des mises à jour logicielles sur l'appareil en quelques semaines et ajouter des fonctionnalités en continu sur cet appareil. C'est l'architecture modulaire. Il y aura d'autres aspects, l'amélioration de la maintenance et puis l'ajout de capacité, notamment d'autonomie et d'armement. Donc oui, c'est vraiment un sujet d'ajouter de la capacité de calcul pour permettre cette modularité, pour permettre de traiter ces drones. Ça consomme un peu d'énergie, mais honnêtement, c'est relativement modeste par rapport à l'énergie déployée en vol. Et nos hélicos sont les moins consommateurs d'énergie du marché et les moins émetteurs de CO2. Donc, ils sont extrêmement optimisés. Et sur un hélico comme le H160, on économise 18% de consommation de carburant par rapport à la génération qui l'a précédé, ce qui donne la capacité soit d'aller plus loin, soit d'absorber un petit peu de cette énergie pour gérer les systèmes à bord.
J'ai envie de vous demander des nouvelles, les dernières nouvelles de votre petit dernier, le H140 que vous avez récemment lancé. Ouais. Comment va-t-il et où en êtes-vous? Est-ce que votre téléphone sonne à nouveau pour le H140 déjà?
Il sonne beaucoup là, il sonne tellement que parfois les clients sont un peu frustrés qu'on puisse pas en livrer plus. Non, le H140 est un formidable succès, on l'a annoncé il y a un an. C'est un hélicoptère qui va être extraordinairement optimisé en termes de coût d'emploi, de disponibilité, qui inclut beaucoup d'innovations, une nouvelle poutre de queue avec un plan horizontal revu, un nouveau rotor. Les essais se déroulent très bien. Donc on fait aujourd'hui les campagnes climatiques. Les hélicoptères, il faut les tester en temps très chaud, il faut les tester en temps très froid. On a fait les essais de froid cet hiver, on va faire les essais chauds cet été. Et on est totalement sur notre feuille de route pour finir le développement et le livrer à partir de 2028. On a déjà un carnet de commandes bien rempli avec plusieurs dizaines d'hélicoptères et beaucoup de clients impatients de le recevoir.
Il y a un élément fondamental vous avez prononcé il y a quelques minutes, le mot service maintenance. On n'en a pas parlé tout à l'heure dans vos revenus. Toutes les activités de MRO, de service de maintenance, vous rapportent aujourd'hui chez Airbus Hélicoptère quasiment 50% bientôt des revenus. Vous continuez à développer ça. Enfin, plus vous vendez, plus évidemment vous avez de services derrière. C'est la nouvelle vache à lait, si j'ose dire.
C'est une force du modèle économique d'Airbus Hélicoptère, c'est de s'appuyer d'une manière très équilibrée sur cette activité de support et de service et sur l'activité de vente d'hélicoptères neufs. Et les cycles ne sont pas tout à fait les mêmes. Ça nous donne beaucoup de résilience à notre modèle d'affaires. L'hélicoptère, c'est une machine qui vole bas, dans des environnements difficiles, qui absorbe parfois de la poussière, des gravillons, qui reçoit de la corrosion, parce que dans les missions maritimes, ils volent au-dessus de l'eau. Donc c'est vrai qu'il demande plus de maintenance à l'heure de vol qu'un avion. D'abord, c'est quelque chose que nous cherchons à optimiser, parce que notre but, c'est quand même de rendre l'hélicoptère accessible au plus grand nombre, et donc de continuer à optimiser ça sur les nouvelles générations d'hélicoptères. Mais néanmoins, c'est vrai que ça représente ensuite, dans la maintenance, une activité importante, extrêmement stratégique pour nous, qui justifie nos investissements, par exemple, dans un nouveau système logistique ou dans un site internet capable d'assurer une livraison extrêmement fluide des commandes de pièces détachées ou dans l'amélioration de nos capacités de réparation.
On avait beaucoup parlé à un moment donné de l'aviation bashing qui avait touché aussi l'hélicoptère. Aujourd'hui, on a l'impression que ça s'estompe un petit peu, d'autant plus que effectivement, on se rend compte que l'hélicoptère est important pour différentes missions et notamment, on le voit en ce moment sur les incendies dans le sud de la France. Donc aujourd'hui, quel est votre ressenti par rapport à ça?
Je le ressens beaucoup moins. Je pense que l'hélicoptère a été moins exposé parce qu'il assure des missions d'importance vitale, tout le monde le sait, des missions médicales, des missions de sécurité, des missions de lutte anti-incendie, des missions militaires qui sont pas substituables. L'hélicoptère est indispensable pour ces missions. Donc, je pense que l'hélicoptère a un peu moins subi cet aviation bashing, de toute façon, qui était absolument pas justifié sur la voilure fixe non plus. Dans le cas spécifique de l'hélicoptère, on peut décarboner très facilement les opérations d'un hélicoptère, en le faisant voler avec des carburants durables. Nos hélicoptères sont capables de le faire aujourd'hui pour la moitié du mix et pourront le faire totalement sur les prochaines générations d'hélicoptères. On a été les premiers à faire voler un H225, par exemple, entièrement avec du carburant durable. Donc, on peut décarboner l'hélicoptère. Les clients qui le veulent peuvent le faire. Et c'est économiquement plus simple que dans la voilure fixe, parce que le carburant représente une part moins importante des coûts de l'opérateur. Et par ailleurs, voilà, il est non substituable, y compris dans des missions de d'adaptation, malheureusement, au changement climatique. C'est évidemment le cas de la lutte anti-feu, c'est le cas aussi des opérations de sauvetage lors des grandes inondations, comme malheureusement on a connu aussi récemment. Donc l'hélicoptère est indispensable à l'adaptation au changement climatique et peut être rendu non contributeur au changement climatique proprement dit.
On l'a vu aussi dans le domaine militaire, au Venezuela avec les hélicoptères américains, et puis aussi en Iran, quand ils sont allés chercher le pilote qui était... Donc aujourd'hui, l'hélicoptère ne va pas disparaître du tout
de... Absolument pas. Ce qui est extraordinaire avec l'hélicoptère, c'est la versatilité et la variété des missions qu'on peut lui faire faire, et on en découvre tous les jours. Donc on a découvert lors de ces conflits, bon, malheureusement d'une certaine manière, mais la capacité de l'hélicoptère à abattre et à protéger des drones et à protéger la population. En Ukraine, un quart des drones ont été abattus par des hélicoptères. L'hélicoptère, les nôtres et ceux de nos concurrents, ont été essentiels dans la protection des pays du Golfe contre les attaques de Shahed iranien. Et comme vous l'avez dit, lorsqu'il s'agit d'aller sauver un pilote en territoire ennemi ou il s'agit de faire des opérations spéciales, rien ne peut remplacer l'hélicoptère. Donc je pense que la pertinence de l'hélicoptère a été totalement validée dans ces conflits récents. Elle va s'accroître si on fait des missions de couplage avec des drones qui vont développer un nouveau concept d'emploi. Ce qui justifie, je pense, les commandes importantes que nous avons reçues récemment dans le domaine militaire.
Michel parlait de la lutte anti-feu, vous en parliez aussi. Est-ce qu'aujourd'hui vous estimez que les hélicoptères sont sous-estimés dans la lutte anti-feu ?
Je pense qu'ils sont très complémentaires de la voilure fixe. Un hélicoptère en lutte anti-feu, il peut aller chercher de l'eau beaucoup plus près parce qu'il peut prendre de l'eau dans des plans d'eau qui sont petits. Ça peut être des piscines, ça peut être des lacs, des étangs. Donc il peut aller chercher l'eau beaucoup plus proche, à des endroits beaucoup plus proches de l'incendie proprement dit. Il est versatile, polyvalent, donc il peut transporter aussi des pompiers, des équipes très facilement pour les positionner beaucoup plus rapidement sur les lieux d'intervention. Il peut viser beaucoup plus précisément l'endroit où il dépose l'eau ou le retardant. Donc, il permet une lutte à la fois très efficace. On peut, avec un H215, avec des plans d'eau raisonnablement proches, on peut déverser 50 000 litres en une heure sur un incendie. Et il permet une attaque beaucoup plus ciblée, beaucoup plus précise et un mode polyvalent. Donc, on pense qu'il est vraiment complémentaire de la voilure fixe et énormément de pays dans le monde s'appuient sur l'hélicoptère. C'est un marché qui est très important pour nous.
Un dernier mot, si vous permettez. Vous avez réussi une première mondiale cette année, faire aller un hélicoptère à 425-430 km/h avec le Racer. Qu'est-ce que ça peut préfigurer pour les futurs hélicos, justement
Alors, le Racer, c'est non seulement un hélicoptère qui est allé plus vite qu'aucun hélicoptère ne l'a fait, et c'est aussi une architecture très efficace parce qu'elle permet de continuer à voler en stationnaire ou à opérer à basse vitesse. Donc on garde toutes les caractéristiques utiles de l'hélicoptère qui se différencie de cette manière. C'est bien le vol stationnaire ou à basse vitesse qui apporte beaucoup des capacités de mission de l'hélicoptère, tout en ajoutant cette capacité à aller plus vite et plus loin. Donc c'est une architecture qui s'est avérée extrêmement performante et on est extraordinairement satisfait de ce qu'a fait le Racer. Maintenant, il faut que cette capacité trouve son public. On pense que sur des armées qui souhaiteraient vraiment acquérir cette capacité d'aller vite et loin, c'est une solution. C'est la meilleure solution, on pense, pour répondre à cette demande spécifique. Et la question va être à quel point les armées, en particulier européennes, vont être prêtes à payer pour développer cette capacité et accepter un certain surcoût par passager transporté qui est lié à l'architecture quand même plus puissante et plus sophistiquée d'un appareil comme le Racer. Mais il apporte, de notre point de vue, la solution parfaite à la question d'emmener l'hélicoptère plus vite et plus loin.
Mathieu Louveau, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, le directeur général d'Airbus Hélicoptère. Michel, merci beaucoup. On se retrouve à la rentrée puisque c'est l'heure de la pause estivale. Donc rendez-vous au mois de septembre dans Air et Défense.
Merci.
Air et Défense sur BFM Business.